Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
En 2015, 12% des militaires de retour de l'opération Sangaris en République centrafricaine présentaient des déséquilibres psychologiques se traduisant par un contact altéré avec la réalité. Et 8% d'entre eux de retour de l'opération Pamir en Afghanistan, c'est ce qu'estimaient des députés d'après un rapport d'information publié le 4 février de cette année-là et détaillé dans le journal La Croix. La problématique des blessures invisibles des soldats en opération est un enjeu majeur pour la défense, ajoutait ce rapport. Avant, on appelait cela le choc des tranchées ou aussi l'usure au combat ou encore les névroses traumatiques. Ce mal, souvent silencieux, qui ronge les hommes de retour de la guerre sans blessure physique, mais qui ne se remettent pas de ce qu'ils ont vu ou vécu. Depuis, un nom plus précis a été mis sur ces mots et ce nom, c'est trouble de stress post-traumatique. Il est notamment associé à des accidents graves, à des morts violentes, des agressions, la guerre et d'autres attentats qui ont suscité des peurs intenses, un sentiment d'horreur ou d'impuissance. Des structures ont été mises en place pour remettre les soldats d'aplomb. Un sas de décompression à Chypre pour les soldats d'Afghanistan et au Sénégal pour ceux de Centrafrique. Une journée d'accompagnement par quelques psychologues dans d'autres cas et les députés regrettent dans ce même rapport que la mise en place du SAS ne soit pas systématique. En son absence, les moyens sont limités à l'envoi sur le lieu d'intervention d'un psychologue pour 15 000 hommes. Un dispositif donc insuffisant puisqu'ils sont encore nombreux, ces soldats à rentrer, livrés à eux-mêmes, omnubilés par les mêmes images, ressassant sans sommeil ni en train, irritables ou encore agressifs. Ils sont parfois également hypervigilants, ce qu'on appelle en mode guerre permanent, quand faire leur course sans voir un taliban potentiel dans chaque client est devenu impossible. Tout de suite donc, dans les pieds sur terre, quartier d'été, deux militaires racontent le combat et leur retour à la vie. Chacun a trouvé comment faire face, quelle thérapie lui convenait le mieux, la première étant pour le moins originale et salutaire, comme vous pouvez l'entendre tout de suite dans ces récits combinés et collectés par Pauline Mocor.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis actuellement caporal-chef dans les troupes de montagne. Après deux départs en Afghanistan en 2004 en 2007, où on était sur des missions plus de sécurisation de l'aéroport de Kaboul, on a demandé à mon bataillon d'aller dans l'est de l'Afghanistan, bah forcément pour combattre. Donc là, mission de reconnaissance, mission de combat, beaucoup, hein, pratiquement que ça, mission de recherche de talibans, tenter de les capturer, voire de les éliminer. Donc là, cette fois-ci, dans l'Est, donc en Kapisa, là où j'ai eu les premiers contacts. Donc contact, quand on se fait tirer dessus, par un adversaire. C'était la toute première fois. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer l'une des dernières grosses missions, grosses opérations qu'on a faites là-bas, qui s'est déroulée au mois d'avril, non loin du village de Cherkel, à côté de Tagab. Donc là, mission Cherkel, mission sur deux jours, avec une choura, comme d'habitude. Donc on va pour discuter avec les grands chefs religieux, les grands chefs de village de Cherkel et des alentours, pour tout simplement prendre la température, savoir ce qu'ils ont besoin, savoir ce qu'ils veulent de nous, ce qu'on peut apporter, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et j'en passe des meilleurs. Donc ce jour-là, notre choura se passe bien, pas de problème. On commence les engagements. Et comme d'habitude, on commence à voir des mouvements de femmes qui commencent à partir avec leurs enfants. Donc on se dit, là, c'est même pas la peine, ça va défouroyer. On se prépare, on est tous à bloc. Et là, ça commence à tirer. Donc on commence à balancer contact, contact, contact sur telle position. 7 à 8 talibans commencent à nous tirer dessus. Donc en gros, c'est pop, 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 pop. Hein. On n'est pas là pour prendre des photos. Hein. C'est en avant, en avant, en avant. L'adrénaline. Et là, on arrive au point critique. on arrive à ce qu'on appelle un wadi. Donc un wadi, c'est tout simplement une rivière. Bon, sauf que les courants sont quand même relativement importants. Et en plus, c'est relativement profond, on s'enfonce des fois jusqu'à 1,20 m. Et il faut quand même pas oublier qu'on a nos 50 kilos sur le dos, quoi. Et en plus, on rajoute à ça, hein, les copains qui sont derrière en train de nous tirer dessus. Quand je dis les copains, c'est les talibans, c'est ironique. On est obligé de passer par là. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, on sera, entre guillemets, en sécurité. Après, il ne restera plus qu'une côte de 200-300 mètres. Hein, et après, on arrive à nos véhicules. On passe en gros 2 à 3 par 3. Ça se passe relativement bien. Les balles, elles passent, mais il n'y a personne qui est touché. Et au moment de passer à moi, ben, comme je ne sais pas trop bien nager, et puis dans l'eau, on va dire que ce n'est pas mon fort, ben, à un moment donné, je glisse. Et je me rattrape à mon chef me rattrape en même temps. Et là, c'est panique à bord, dans le sens que ben, lui, forcément, il est déséquilibré. Donc, on est sous le feu ennemi. On va commencer à entendre des rafales. La section qui est derrière nous voit bien qu'on est en difficulté, donc elle va augmenter sa puissance de feu de telle façon à faire baisser la tête des talibans, de telle façon à ce qu'on ait le temps, nous, de s'accrocher et puis de passer ce foutu wadi, quoi. Donc on a perdu du temps, ça commence un petit peu à énerver, entre guillemets, le chef de section, hein. On s'accroche à ce qu'on peut, le courant est très fort, les balles, elles commencent à passer. On voit ces bouts de métal qui passent à fond de la caisse à côté de nous. Hein. Donc là, c'est le stress, il est à fond. Ils sont encore à 200 mètres. Quoi. Mais ils se rapprochent vite parce qu'on se retourne à un moment donné, on les voit. Quoi. Il y a l'adjudant qui me dit « Allez, il faut y aller parce que là, ils sont en train de nous rattraper. » quoi. Et là, on est comme des cons. Quoi. Au milieu du wadi, on peut rien faire. Quoi. Je dis « Oui. » Donc là, je suis dans la merde jusqu'au cou. Je suis en train de me retourner. J'essaie de m'agripper à une pierre. Et là, le chef de section, il me tire un bon coup. Et enfin, on a réussi à se sortir de la merde. Mais j'avoue que la situation était, a failli se transformer en catastrophe. Quoi. En rentrant, j'ai un de mes potes sergents là, qui me dit « Mais là, tu croyais que t'allais rester enfoncé dans le truc, quoi. » J'avais les pieds dans la vase, comme une ventouse, en fait. Ça, c'est un truc qui m'a marqué, quoi. Rester comme ça, comme un pot de fleurs, et je peux rien faire, quoi. Je peux même pas tirer, quoi. Je suis là, je suis dans la flotte, et je vois les balles qui sont en train de passer. Je me dis, mais attends, mais c'est pas possible, je suis en plein cauchemar, quoi. Mais j'avoue que quand ça m'est arrivé, je rigolais pas, quoi. Et j'y mets, toi là, tu vas crever aujourd'hui comme un connard. Et là, bon. Ce jour-là, bah, j'ai eu des déclics. Je pense que c'est cette situation qui m'a fait réfléchir et qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. Je me suis dit que la vie ne tient qu'à un fil. Là, on est là. Dans 5 minutes, on peut trébucher, se casser la figure, faire un AVC et puis mourir. Et là, j'ai failli mourir d'une façon bête et stupide. Et j'ai pris conscience que ben, il fallait profiter de la vie tant qu'elle était là. Je suis rentré d'Afghanistan, je me suis dit, tiens, je vais essayer un nouveau truc. Quoi. Je veux dire, après tout, on n'a qu'une vie, hein, et il faut en profiter. Donc je me suis dit, je vais faire ça aujourd'hui. Ça m'est arrivé comme ça. Je vais découvrir des choses que je n'avais pas fait jusqu'à maintenant. Je verrai bien, ça me plaît pas. Maintenant, en dehors du boulot, je me lâche. Mais j'aurais jamais décidé de franchir les portes d'un établissement libertin avant ce moment, quoi. La dernière fois, je suis arrivé en club, c'était déjà bien commencé dans les coins câlins, et je me suis invité, ça finit un petit peu en partouze, quoi. Mais j'ai bien aimé, quoi, c'était bien sympathique, et bon. Ça permet de découvrir des choses, et ça permet aussi de rencontrer des gens autres, que dans le cadre militaire, dans le tout est très hiérarchisé, tout est codé avec des ordres, tout est précis à la minute près. On a un système qui est bien rodé, bien bon. Là, c'est carrément l'inverse, quoi. On fait ce qu'on veut, comme on veut. Rencontrer des gens qui sont débridés, je pense que ça fait pas de mal de temps en temps. Hein. Ça permet de s'ouvrir l'esprit et puis de discuter d'autres choses. Voilà, quoi. J'ai rencontré des avocats, j'ai rencontré des ingénieurs, j'ai rencontré des cheminots, j'ai rencontré des militaires aussi. Tout un panel de gens de toutes couleurs, de toutes confessions religieuses qui se disent, ils s'autorisent tous les interdits et tous les tabous qui se mettent en place quand ils sont pas à l'intérieur d'une soirée, quoi. Les gens vous invitent parce que vous avez discuté avec eux, viens avec nous, machin, ou T'es intéressé pour venir là, là j'ai une soirée privée, il va y avoir 15 couples, si tu veux. Bah, il n'y aura pas trop de mecs seuls. J'y arrive. Souvent, c'est le dimanche soir ou jeudi soir en soirée gang-bang. La bouffe est offerte et compris dans le prix du forfait, le prix de l'entrée. C'est offert, on rentre, toutes les tables sont prises, tous les canapés sont pris. Bah, je peux m'asseoir à côté de vous, même si vous ne les connaissez pas. Hein. Donc, on commence à discuter, machin, truc. Puis des fois, ça arrive. Moi, j'ai une femme qui m'a dit une fois, je fais court, ça, c'est un militaire, ça. Puis ils savent qu'il y a un bataillon qui n'est pas tellement loin. Ah, mais dis donc, en fait, t'es parti en Afghanistan, alors tout en mangeant, hein. Et puis, on voit madame à côté avec les yeux qui, automatiquement, ça impressionne un peu, je sais pas, peut-être que... Et puis, on arrive, après, on fait quelque chose ensemble, quoi. C'est peut-être un avantage, parce que des fois, les uniformes, on sait que les femmes, elles aiment bien. Le fait d'avoir un uniforme et d'avoir combattu pour son pays, pour défendre des idées, peut-être que ça débloque des choses. J'ai quelques couples qui m'ont demandé, la prochaine fois que tu viens, tu peux me ramener un treillis, tu peux me ramener... Je pense que ça les excite, et puis c'est quelque chose qui est... Ouais, qu'ils connaissent pas, en fait. Je crois que c'est surtout ça, quoi. Je pense que ça attire. Ça fait une étincelle. Là, ça fait bientôt 5 ans qu'on est rentré. Alors au début, on est les, en gros les héros, hein, les mecs qui ont... Et après, on est complètement oublié, à tel point qu'on est pris pour... je suis un caporal-chef lambda, quoi. On se sent un petit peu en marge. Délaissé, laissé pour compte, on va dire, quoi. Et ça, je trouve que si on n'est pas fort psychologiquement, ça peut entraîner à la longue, malheureusement, des gens qui pètent des câbles et qui finissent dans un institut spécialisé. Donc, à un moment donné, ceux qui ont fait des opérations comme nous, comme ceux qui ont fait le Mali là très récemment, bien ceux qui ont fait la Centrafrique, qui ont vu des horreurs et qui ont vu des contacts, faut pas les laisser pour compte dans l'oubli. J'estime que ce que j'ai fait pour défendre les valeurs de mon pays, tout le monde l'aurait pas fait, quoi. Parce qu'il faut quand même une bonne paire de couilles au cul, quoi. J'ai fait un truc en plus par rapport aux autres. Et j'aimerais que ce soit plus remarqué. Donc moi, ma reconnaissance, je vais la chercher dans le civil et dans les milieux dits échangistes. Ouais, j'ai trouvé chez ces gens une reconnaissance que jusqu'alors, à l'armée... j'ai pas. Et puis, en fait, le fait d'aller dans ces clubs, je dirais que ça a fait comme un espèce d'amortisseur naturel. C'est-à-dire que je me suis bien éclaté, ça m'a fait penser à autre chose. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai pas eu le besoin de passer par un psychologue. Parce qu'il y a des couples qui sont intéressés par ce que vous faites. Ah ben t'as fait l'Afghanistan, machin, alors ça s'est bien passé, machin, ça s'est passé comment? Il te pose des questions sur ce qui se passe là-bas, on discute, et puis je connais un mec, il a combattu en Afghanistan, il m'a raconté son histoire, c'était poignant, quoi. Bon, on a fait quelque chose avec, on a baisé avec, machin. Donc en fait j'ai fait ma thérapie un petit peu comme ça, en parlant avec tous ces gens, mes partenaires sexuels, ça m'a fait tout simplement décompresser, j'ai passé la pilule. Inconsciemment, ça m'a débloqué un petit peu tous les trucs mauvais à la con que j'ai pu traverser en Afghanistan. Et je pense que si j'ai jamais pété un câble, si je suis guéri de ça, quoi, je veux dire guéri des traumatismes que j'ai pu voir, je pense que ouais, ce milieu m'a beaucoup aidé.
Transculture, les pieds sur terre.
Je suis le caporal Housni, j'ai 30 ans et j'ai 10 ans de service. Là, actuellement, je rentre du RCA, le Centrafrique, il y a 6 mois à peu près. Moi, personnellement, en étant dans la mission, vu la situation qui se passait dans le pays, je trouvais intéressant de savoir pourquoi le pays est arrivé à ce point-là. Du coup, je parlais avec les locaux, je me renseignais, La population, ils disaient que c'était la faute des Français si la situation est arrivée là, parce que, soi-disant, il y avait des contrats de la France et le Centrafrique qui n'étaient pas honorés, où il y avait des projets où le Centrafrique n'était pas d'accord avec la France. Du coup, quand on est à table, ou des fois on parlait, j'entendais le sergent avec le chef qui parlait à peu près du même truc. Du coup, moi, je leur disais, je parlais avec eux et ça serait la faute des Français. Ça a dérangé mes chefs, ça. Ils l'ont très mal pris. Ils ont voulu m'écarter par rapport à ça, je pense. L'effet que moi, je cherche à savoir la situation qu'il y a dans le pays et l'effet de Laurent touché de trois mots. Mon chef de groupe, il me dit, je ne veux plus que tu commandes mes mecs et ça sera comme ça. T'es que caporal, tu fermes ta gueule et tu obéis aux ordres. T'es que caporal, tu fermes ta gueule et tu obéis aux ordres. Ce mot-là, je pense que j'ai dû l'entendre plus d'une centaine de fois tous les jours. Sortie de terrain, on avait comme mission de garder la maison. Moi, je dois monter sur le camion et j'ai un mec qui est en bas. On maintient l'observation, on regarde. Moi, je dis au sergent que j'ai de plus en plus du monde qui s'approche de la maison. Et à peine 30 secondes après, je vois une rafale qui passe, trois cartouches qui passent en l'air. Et moi, j'étais en train de balayer le champ. J'entends le bruit et j'ai vu les lueurs passer. Du coup, moi, mon premier réflexe, je tire à la 12-7, mitraillette 12 mm. Et là, en fait, quand ça a tiré, tout le monde se cache derrière le camion. Nous, ce qu'on a fait, on a jeté des grenades. Et puis, je vois un reflet sur la fenêtre et il bouge pas. Déjà, il m'a paru bizarre parce que se poser juste comme ça à la fenêtre, regarder dans le noir, c'est pas normal. Je le vois, il pose un truc, un tube. Et moi, quand j'ai vu le mec, j'ai dit au chef de groupe, je dis, sergent, je pense qu'il y a un mec qui a un lance-roquette. Il me dit, quoi? Je lui dis, il y a un mec qui a une lance-roquette à la fenêtre. Il me regarde en face, mais je pense qu'il me voit pas. Et là, il dit, ok, tout le monde dégage. Tout le monde dégage, venez. Et là, tout mon groupe, il se lève pour aller avec le sergent, s'éloigner du camion, se mettre à l'abri. Et moi, je suis en haut, je commence à descendre. Il me dit, non, tu restes en haut, tu maintiens l'observation. Je lui dis, pardon, vous voulez que je reste là? Il me dit, oui, tu restes là, tu maintiens l'observation, tu me renseignes sur le mec. Moi, je suis le seul du groupe exposé au mec avec son lance-roquette en face. Et à partir de là, je pense que je n'entendais plus ce qu'il y avait autour. Je voyais que le mec en face de moi. Et là, j'ai le stress. Je stresse, je tremble. J'étais en sueur. Mon pantalon, il était trempé. Que de sueur. J'avais les pieds et les chaussettes trempés parce que tellement j'avais transpiré. Et du coup, moi, j'ai redemandé au sergent. Est-ce qu'on peut me remplacer? Il m'a dit non, tu restes là. Le temps est passé. Ça a duré plus de 10 minutes. Ça m'a paru très long. Je devais continuer ma mission de toute façon. Et puis, le capitaine, il est venu. Il me dit ok. Eh ben, vous décrochez le camion et vous rentrez. Du coup, moi, déjà là, j'étais pas serein. Je me suis dit, si on arrive à passer derrière, je vais lui mettre une patate dans la gueule au sergent. Et puis, quand on est passé derrière, ben, ça m'est passé de la tête. Je descends du camion. J'étais là avec le groupe. On s'est mis face au mur. Mais je pense pendant une heure, j'ai parlé avec personne. C'était la première fois que j'étais exposé à ça. Et puis, j'ai pas dormi de la nuit déjà. Moi, quand on arrive à cette période-là, c'est ce que déjà je suis en stress. L'effet de vous en parler, je sens comme si j'ai mes doigts qui deviennent moites à moitié. je croyais que j'allais pas rentrer, moi. À un moment, j'étais arrivé à là. Parce que je me sentais visé quand je faisais mes patrouilles. Tout au début, il y a un musulman qui voulait traverser un checkpoint. Donc ça a dégénéré, il y a eu une foule. Du coup, nous, on fait un barrage au milieu de la route qui amène directement dans le quartier musulman. La population anti-Balaka, qui voulait aller côté les Séléka, ils jetaient des cailloux par-dessus nous. Ils criaient pour les musulmans. On va vous tuer, on va vous manger, on va vous brûler, tout. Moi, perso, déjà, je dis rien. Les mecs à côté, mes collègues de mon équipe, ils parlent avec les anti-Balaka. Moi, je me suis dit, ok, c'est pour les calmer, histoire de discuter avec eux. Et un collègue à moi qui dit aux anti-Balaka, allez voir lui là-bas, c'est un musulman, en me montrant du doigt. Et le deuxième qui est à côté, lui, il confirme, il montre, oui, c'est lui là-bas, là. Du coup, là, il y a un petit groupe, la population anti-Balaka, qui vient devant moi en m'insultant, on va te manger, on va te tuer, t'es qu'un fils de pute. Et il y en a un, il me dit, hé, on a trouvé le général des singes, on va le manger ce soir. Et le mot général des singes, ça leur a fait tellement plaisir que même avec la tension qu'il y avait, ils ont pris le temps de rigoler quand même, mes collègues. Et les Africains, les anti-Balaka, à chaque fois qu'ils me voyaient, c'était « je suis un vendu, on va te tuer, on va venir te chercher ce soir ». Moi, j'entendais tout ça, mais bon, je prenais pas compte. Au début, je prenais pas compte. Mais après, j'allais en patrouille. J'avoue que j'ai fait des patrouilles où je mettais jamais ma sécurité. Sur mon FAMAS, je mettais jamais ma sécurité. Il faut la mettre. On ne peut pas enlever la sécurité tant qu'on n'est pas sûr de son objectif. Moi, je l'enlève pour pouvoir agir aussi vite contre la population, s'il se passe quelque chose. Parce que je me suis dit, eux, mes collègues, ils pourraient me balancer sur n'importe quoi, où je crèverais là. On a eu des moments où on était barrés de la route, où il n'y a que de la population. Je croyais que j'allais mourir. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et tout le long, je ne dormais pas. Pas du tout. Parce que mes micro-sommeils que je faisais, j'entendais tout ce qui se passait à côté. J'entendais tout. Le sergent, il appelait les petits Africains les macaques. Une fois, il a osé m'appeler comme ça. Une fois. Je lui ai dit, sergent, on va se mettre d'accord tout de suite. Je suis pas votre chien, moi. Vous m'appelez pas macaque. J'ai un bande patronomique. Il me dit, c'est bon, on le prend pas mal. Je fais demi-tour, je me barre. Il y a un truc à savoir. À l'armée, il y a beaucoup du racisme. Ils veulent pas l'admettre, mais il y a beaucoup du racisme. Une fois, on m'a mis de TG. Travaux intérêts généraux. J'ai dit non, je peux pas être TG parce que j'y étais déjà hier. J'y suis encore aujourd'hui. Ça veut dire quoi, demain encore j'y suis? Et là, un sergent qui était à côté, il me dit, hé, tu sais pas que les Noirs à la compagnie, vous êtes tous des esclaves et vous êtes là pour frotter les chiottes avec des brosses à dents. Le mec, il me dit ça. Ils étaient tous ligués contre moi. Mon chef de section, le chef de groupe, mon équipe, tous ces gens-là, je pouvais pas leur parler. J'ai eu un moment, j'avais qu'une idée en tête, rentrer en France. Mais c'est un truc qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui, où tout le jour on m'a traité de pédale ou de salope, ou voilà, parce que j'ai peur ou je veux rentrer. Et je me suis dit, faut que je fasse la connerie pour rentrer en France. Je vais mettre une carte chez quelqu'un. Je ne l'ai pas fait. 5 mois en fait, on a fait. J'ai tenu parce que j'appelais souvent ma fille, je parlais avec elle. On est rentré du Centrafrique en juin 2014. Et quand on est rentré, j'étais chez la mère à ma fille et Dès le début, je voulais voir personne. Je buvais de la bière, du whisky, de la bière, du whisky. Je pouvais passer 24 heures sans rien manger, mais je buvais tous les jours. J'ai fumé aussi du shit pour pouvoir dormir. Je me suis trouvé qu'en un mois, j'ai dépensé plus de 400 euros pour fumer du shit. Et puis, quand mon fils il me parlait, ça m'énervait. Papa, ferme ta gueule. Je me disais juste, il faut pas que je lui réponde. J'essayais de parler doucement, mais je crie. C'était plus fort que moi. Je l'ai tapé. Après, je me disais, pourquoi j'ai fait ça? J'ai essayé d'être gentil avec lui. Je lui ai dit, viens, on va aller faire un petit tour en vélo tous les deux. Il me dit, non, je viens pas avec toi parce que tu vas me taper encore. Déjà, tu nous cries tout le temps dessus. Du coup, moi, quand il m'a dit ça, ça m'a interpellé. Et à partir de là, je me suis dit, écoute, je peux plus faire autrement. Il faut vraiment que j'en parle au médecin. Et là, ça fait un mois que j'ai repris le boulot. Je suis revenu, certes, mais moi, je reviens pas pour travailler. J'ai dit que je veux plus rester là. Si je suis là, c'est pour faire ma reconversion et partir. On ne m'entendra plus. Je décroche. Je sors de ce milieu-là. J'ai envie de construire ma vie. J'ai envie de trouver un métier qui me permettrait de me sentir papa, de pouvoir profiter de mes enfants. J'avais pensé éboueur pour moi. Éboueur, ça serait un métier où ça me permettrait de passer du temps à la maison, de voir mes enfants. Quoi. Parce que j'ai l'impression, en fait, de juste pouvoir dire que j'ai fait des enfants, c'est tout. Mais vraiment la notion, vraiment me dire que putain, je suis papa quoi. Personnellement, avec le boulot, je n'y pensais même plus.
C'était La Guerre et après, reportage Pauline Mocor réalisé par Delphine Lemaire et avec un coup de main de Emmanuel Geoffroy. Cette émission a été diffusée le 22 avril 2015 pour la première fois. Merci à Jeanne Delecroix et à Zoé Marie Roulier. Pauline Mocor est l'auteur d'un livre sur la guerre qui s'appelle, je crois, également La Guerre et après. Vous retrouverez tout un tas d'informations sur ce sujet sur notre site à la page des Pieds sur Terre, quartier d'été.